et à tous. Bonsoir, donc Christian Marmonnier. Donc je suis entre guillemets le joyeux animateur de cette rencontre, regard croisé, appelé, qualifié de regard croisé, en compagnie donc de Simon Hureau, juste à ma droite, qui est l'auteur de Hautes œuvres, l'ouvrage dont on va parler principalement aujourd'hui, dans cette thématique La justice, instrument de mort légale. Hautes œuvres, qui est un livre de bande dessinée qui est sorti, qui est apparu chez La Boîte à Bulles il y a un an et demi, me semble-t-il, c'est ça. Ouais. Un petit traité d'humanisme à la française, et j'ajouterai aussi d'humour, même si l'humour paraît difficile à concilier avec l'idée de la mort et de la mise à mort que tu présentes dans Hautes œuvres. Et pour nous, pour nous aider à commenter cette période historique et aussi ce qu'il s'y passe, nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Jean-Marie Augustin, qui est enseignant. Et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence dans le domaine de l'histoire, et en particulier peut-être un ouvrage aussi dont on va parler, donc Hautes œuvres. Je vous présente la couverture de ce livre. Et Jean-Marie Augustin est donc l'auteur d'un ouvrage en particulier dont on va, je pense, parler plus amplement, qui s'appelle « Les vies dont elles me collaient, escrocs, bagnards et pédophiles ». Et j'aimerais rajouter mythomane, comme je vous le disais tout à l'heure.
Mais c'était un peu long, si vous voulez. Déjà, oui. On ne pouvait pas tout mettre.
Mais on apprécie les titres longs en littérature maintenant, il me semble.
Maintenant, oui, c'est une question de mode.
Voilà, donc j'aimerais que peut-être l'un et l'autre vous présentiez rapidement un peu votre parcours, ce que vous avez fait, et puis après, on va directement droit au sujet. Simon ? Tu es auteur maintenant de bandes dessinées depuis
un peu moins de 10 ans. Ouais. Je sais pas, j'ai fait diverses choses. Là, c'est ma première petite incursion dans le récit historique, on va dire, malgré les libertés qu'il comporte. Ouais. Je fais des récits de voyage.
Tu vois ça plutôt comme une fiction historique ?
Oui, quand même. Ouais. Ouais. Basé sur des faits réels et assez scrupuleusement respecté dans les détails du sujet central. Ouais. Mais dans la périphérie, j'ai pris quand même beaucoup de liberté. Par ailleurs, je fais essentiellement de la fiction, quand même, et plutôt contemporaine.
Mais tu as fait aussi des récits de reportage, me semble-t-il.
Oui, peut-être pour des collectifs.
Des récits de voyage, plutôt que de reportage, de voyage. Très bien. Monsieur Augustin ? Alors, donc, peut-être approcher le micro.
Jean-Marie Augustin, je suis tout simplement professeur... maintenant à la retraite, à la faculté de droit de Poitiers. Voilà. Mmh. Et je suis, ma spécialité était l'histoire des institutions. Et comme vous l'avez dit, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages qui intéressent plutôt l'histoire du droit pénal, dont le dernier qui donc était consacré à cet arnaqueur. Là aussi, c'est un peu à la mode aujourd'hui, les arnaqueurs. Lui, c'est au 19e siècle et, comme vous disiez, également mythomane.
Alors, mythomane, parce qu'il avait écrit ses mémoires qui, pour l'époque, étaient déjà assez rocambolesques, même si, là, je fais un usage d'un mot anachroniquement.
C'était rocambolesque. Alors, je crois aussi, on peut faire un rapprochement, ce n'est peut-être pas lui qui a écrit ses mémoires. Il a eu quelqu'un... Il y a quelqu'un qui l'a fait parler et qui a écrit à sa place. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Mais en tous les cas, c'est une vie très, très mouvementée qui l'a conduit donc à plusieurs procès dans toute la France et qui l'a conduit aussi à connaître les trois bagnes de l'époque, Toulon, Brest, et il est mort à Rochefort. Voilà.
Donc, vous connaissez bien la manière dont on rendait justice à l'époque, dont on mettait à mort aussi les condamnés.
Oui, mais je préférerais peut-être que l'on se replace dans la période d'Ancien Régime, parce que là, on est dans l'Ancien Régime, et l'aboutissement, c'est la Révolution. Le système pénal au XIXe siècle est tout à fait différent, notamment parce qu'il y a un principe de légalité des infractions et des peines, qui existe toujours aujourd'hui, et il y a aussi, en ce qui concerne la peine de mort, on en reparlera, un mode d'exécution unique qui est celui de la guillotine, alors que sous l'Ancien Régime, il y avait une grande variété d'applications de la peine de mort avec des supplices tous plus atroces les uns que les autres et qui donc complétaient aussi cette variété criminelle que sont les crimes, là on va parler du régicide, la sorcellerie, encore que c'est plus tellement le cas sous Louis XV, les vols, les vols sur les grands chemins, les bandits de grands chemins.
Alors quelles sont les graduations pour nous donner, etc. Puisque je vous ai sous la main, quelles sont les graduations de condamnation à l'époque?
Eh bien, le vol, le crime simple, on pourrait dire, c'est la pendaison pour les roturiers et la décapitation pour les nobles, le privilège de la noblesse. Et ensuite, il y avait certains crimes qui étaient punis de peines particulières, par exemple le bûcher pour les hérétiques, encore que ce n'est plus le cas sous Louis XV, pour les sorciers. Je pense par exemple à Urbain Grandier, sous le règne de Louis XIII, le curé de Loudun, l'histoire des dépossédés. Le bûcher aussi pour les sodomites, pour les crimes de sacrilège. Et puis la roue pour les bandits de grand chemin. Vous voyez, il y a une très très grande... Et puis il y a aussi des peines accessoires, on en reparlera. Et le régicide, alors, qui est puni là d'une peine spéciale qui est celle de l'écartèlement. Le supplice qui est infligé à Damien, c'est le même supplice qui a été infligé à Ravaillac, qui avait donc tué, lui, le Damien n'a fait que blesser Louis XV, mais Ravaillac est l'assassin d'Henri IV, et c'est le même supplice que l'on va ainsi lui infliger, mais ce supplice est réservé au crime de régicide, c'est-à-dire le fait de porter atteinte à la personne du roi. C'est un crime de lèse-majesté. C'est, on le disait tout à l'heure en aparté, c'est considéré à l'époque comme le crime le plus abominable.
Alors, la reine, peu importe, on pouvait s'attaquer à la reine.
Mais... là aussi, bon, il n'y a pas de cas ou des princes, des princes de la famille royale, mais bon, y a, à ma connaissance, il n'y en a pas. Encore si, il y a Paul Trot de Méret qui a été au XVIe siècle. Qui a aussi tenté de tuer le duc de Guise, et me semble qu'on lui a infligé. Mais c'est parce que, véritablement, c'est le crime de lèse-majesté, le roi est sacré, le roi est un personnage hors du commun, ce n'est pas l'égal des autres mortels. Et porter atteinte à la personne du roi, c'est grave, et ce qui explique donc ce supplice très particulier qui est celui de l'écartèlement.
Alors tout ça nous met en appétit, évidemment. Et j'allais dire que ces supplices sont hérités de, sont forcément hérités de siècles d'entraînement
et, oui, et de sagesse. Encore que non. Vous savez, il y a eu, je pense, une recrudescence, une volonté de punir et d'exemplarité des peines à partir du XVIe siècle. C'est vraiment à partir du XVIe siècle. Alors, il y en a qui sont plus anciens, le bûcher, c'est le Moyen-Âge.
Et pour quelle raison, alors, à ce moment-là, à partir du XVIe siècle?
Parce qu'il y a, à partir du XVIe siècle, il y a une augmentation démographique et il y a une volonté d'exemplarité, c'est-à-dire de punir. Punir, c'est pas seulement infliger une souffrance mais, à celui qui est condamné, mais c'est également... dissuader ceux qui assistent, parce que n'oubliez pas que tous ces supplices ont lieu en public, à Poitiers, sur la place du Pilori, ou sur la place d'armes aujourd'hui. Oui. Donc, ces supplices ont lieu à public et il s'agit de dissuader tous ceux qui pourraient ainsi avoir les mêmes idées que le condamné que l'on est en train d'exécuter. Hein. Il y a un phénomène d'exemplarité de la peine. Alors, il faut bien voir ses conséquences. Voilà. Il y a un éclat des supplices. C'est le, je reprends le thème de Michel Foucault. Hein, Michel Foucault qui a écrit sur Damien. Oui. Michel Foucault, bien connu à Poitiers, c'est sans doute un des grands philosophes. Je crois que c'est la célébrité poitevine contemporaine. Michel Foucault, très très mal vu et très mal connu à Poitiers. Il faut bien reconnaître les choses comme elles sont. Mais quand même, il faut quand même le savoir. Et on en parlait aussi. Et donc Michel Foucault, dans Surveiller et punir, commence par le supplice qui est infligé à Damien.
Alors voilà, tout ça pour nous présenter. Merci de nous avoir présenté un peu le contexte, j'allais dire. Le contexte qui sert à Simon H, puisque c'est le pseudonyme que Simon Hureau a utilisé pour écrire cette histoire, a évoqué le supplice de Damien. Qu'est-ce qui t'a donné, Simon, l'idée de le traiter en bande dessinée ? Après, sous la forme de l'humour, j'allais dire, ou du, peut-être du cynisme ou de l'ironie, mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée ? La lecture peut-être d'un livre ?
Oui, oui, voilà. Oui. À la base, en fait, j'étais complètement ignorant de ce sujet-là. Je ne connaissais pas l'existence de Damien. Et en lisant par hasard l'encyclopédie de Martin Monestier des peines de mort, au chapitre écartèlement, je suis tombé sur Damien et cette histoire abominable et en décalage complet avec l'époque dite des Lumières, quand même. Puis après, j'ai lu Bourreau de père en fils, donc la saga de
la famille Sanson.
De la famille Sanson sur 4 générations à peu près, ou un peu plus, je ne sais plus.
Ah, est-ce que tu peux nous en dire plus ou je demanderais peut-être aussi à Jean-Marie Augustin de développer sur cette fameuse famille. C'était un métier qui se transmettait de père en fils,
voilà,
un métier des hautes œuvres, de bourreaux.
Voilà, donc le premier est tombé dedans par hasard en se mariant avec la fille d'un bourreau et il a transmis, sous réserve, ce que j'ai lu. Et il a transmis sa charge à ses fils, petits-fils, etc., jusqu'à Charles-Henri Sanson, qui sera le bourreau de la Révolution, mais qui, tout jeune, a démarré, justement.
Sur un couac.
Sur un monumental couac, parce que je crois qu'il n'avait même pas 20 ans quand on lui a mis ce régicide entre les mains. Qu'il l'a complètement dépassé, évidemment, parce que. Enfin bon, du coup, il a dû faire appel à son oncle, qui lui-même s'est à moitié évanoui sur l'estrade. Enfin bon.
Alors, tu racontes ça d'une certaine manière, hein. Tu racontes ça dans les bouches donc, de Charles-Henri Sanson et de sa mère, et tu développes cette mise à mort. Est-ce qu'elle a aussi de particulier ? Justement, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Qu'est-ce qui a fait que c'était quelque chose qui s'est extrêmement mal déroulé ?
D'abord, apparemment, techniquement, c'est quand même très difficile. Enfin, il faut parfaitement choisir ses chevaux, des chevaux un peu plus forts pour arracher les jambes, parce que c'est des membres plus épais. Enfin bon, y a le feu de soufre pour brûler la main. Bon, et
oui,
puis il n'y a pas de pratique. Le dernier en date, c'était 1610 de mémoire.
Parce que Jean-Marie Augustin, vous disiez écartèlement, mais il n'y a pas que l'écartèlement, il y a aussi tout ce qui précède.
Il y a tout un cérémonial, il faut bien s'en rendre compte. Oui. C'est tout un cérémonial, parce que ça aussi, ça fait partie du supplice. Mmh. Il faut qu'il y ait, et Michel Foucault l'explique très bien, on demande presque même aux condamnés de participer à son propre châtiment. Et il faut, par exemple, qu'il demande pardon. C'est pour ça que ça commence par une amende honorable qui a eu lieu devant Notre-Dame de Paris. Le condamné est amené dans un tombereau, du reste, dans lequel on mettait habituellement les immondices, et il est en chemise, et avec une torche allumée à la main, et il doit s'agenouiller devant la porte de Notre-Dame pour d'abord avouer son crime et demander pardon. Et au fond, il faut qu'il lui-même est l'acteur de son supplice. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il est lui-même l'acteur il est le personnage central de cette cérémonie qui va se terminer de manière tragique. Et ensuite, on va le conduire tout près du reste, c'est-à-dire à l'époque, place de Grève, c'est aujourd'hui la place de l'Hôtel de Ville, et c'est là qu'a lieu l'exécution.
Et là, on le transporte, en l'occurrence, on le transporte parce qu'il ne pouvait plus marcher.
Oui, parce qu'en plus, évidemment. Auparavant, au cours de... avant, il y a eu la question aussi qui lui a été infligée.
Là, c'est un héritage de l'Inquisition, la question, il me semble, non ? Est-ce qu'on peut dire ça ?
C'est oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que là, c'est un héritage du Moyen-Âge, effectivement. Oui. C'est un héritage du Moyen-Âge et il faut faire avouer. Parce que l'aveu, c'est toujours la reine des preuves, à toutes les époques. Encore que maintenant, on s'en méfie. On a raison, à mon avis. Donc, on veut faire avouer et donc, on va soumettre l'accusé. On va le soumettre donc à une torture qui est soit les brodequins, encore qu'on commence à l'abandonner parce que il y a aussi une peine qui va naître au XVIe siècle, qui est celle des galères. Et quelqu'un qui a eu les jambes brisées ne peut plus faire un bon galérien. Donc on va préférer le supplice de l'eau, c'est-à-dire on va l'obliger à ingurgiter des litres et des litres d'eau jusqu'à ce qu'il avoue. Et c'est ce qu'on appelle la question préparatoire. Mais on pourra en parler aussi, ça, de cela. Elle est de moins en moins impliquée, sauf dans ce cas-là où là, elle était inévitable. Mais au XVIIIe siècle, elle est de moins en moins impliquée. Elle sera même abolie avant la Révolution, grâce à Louis XVI, en 1780. Il a donc subi la question. Donc, effectivement, on est obligé de le traîner. C'est horrible. Là encore, l'exécution, vous l'expliquez très bien, mais vous pourrez vous redonner la parole. Si
oui,
vous voulez.
D'ailleurs, allez-y. Simon, une fois transporté sur scène, qu'est-ce qui arrive ? Parce que c'est vraiment, en plus, toi, tu l'as organisé comme avec ta mise en scène, comme un spectacle. C'est-à-dire,
oui.
C'était paradoxalement, c'était aussi un spectacle.
On viendra sur
l'aspect public et qui participe d'ailleurs. On pense que c'est un spectacle populaire, dans le sens où le peuple est majoritairement présent dans cette mise à mort publique.
Oui, c'est essentiellement le peuple autour, mais finalement, dans les immeubles aux alentours, les propriétaires ont loué à prix d'or, donc à des gens qui avaient les moyens. Et là, c'est des spectateurs fortunés qui parfois même peuvent venir d'assez loin, spécialement pour voir ça.
Vous ne pourriez pas passer le dessin où il y a cette maison? Parce que je crois que c'est ça finalement. C'est plus loin, c'est beaucoup plus loin.
On y vient. C'est dans les pages 30, un truc comme ça.
30,
par là, je crois.
Voilà. Je crois que c'est tout à fait ça. Bon, c'est traité avec humour, mais effectivement, vous avez des spectateurs à tous les étages. Vous en avez en bas et vous en avez à tous les étages de la maison qui regardent. Ce spectacle.
Certains faisant les comptes de la journée, parce qu'évidemment, ceux qui louent ces appartements, les louent parfois, effectivement, à prix d'or.
Vous pourriez raconter l'histoire de Casanova, quand même.
Oui, alors, dans un de ces appartements, il y a eu, en effet, Casanova qui a pas fait le récit détaillé de l'exécution, parce que pour lui, c'était trop horrible pour être décrit, mais qui décrit, par contre, par le menu, le fait que les amis avec lesquels il était se livraient à des plaisirs sensuels en toute discrétion à la fenêtre. Et apparemment, il y avait d'autres témoignages de ce type-là.
On va être plus cru, vous n'osez pas. Les dames étaient penchées à la fenêtre et les messieurs troussaient les dames pendant qu'elles regardaient ce pauvre Damien supplicier. Voilà.
Donc moi, au niveau mise en scène, ça m'intéressait parce qu'il y avait moyen de raconter ça par plein de points de vue différents, plein de regards qui n'ont vraiment rien à voir finalement, y compris celui du bourreau, ayant lu la biographie là, de toute la famille. C'est intéressant parce que on connaît la guillotine, on oublie qu'il y a quelqu'un qui l'actionne, qui est un humain aussi a priori, qui a une vie et qui était pas forcément, qui se destinait pas forcément à ce métier-là. En l'occurrence, lui, il aurait préféré être médecin, donc c'est pas tout à fait pareil.
Quoiqu'à l'époque, j'en suis pas sûr. Mais...
Oui, bon.
Bref, alors on oublie quand même les différentes étapes là, qui...
Oui.
Qui, après, quand, il, quand le, bah, le Damien, donc, le condamné, est sur scène, que lui arrive-t-il ?
Eh ben, on l'installe sur une croix, on le ligote, et on lui brûle à feu de soufre la main avec laquelle il a poignardé le roi, dans laquelle on a ficelé le couteau, le couteau de, du crime. Donc apparemment, le feu de soufre fait disparaître la main.
Bon. Attends, je peux ajouter quelque chose ? C'est aussi... le même châtiment que l'on inflige au parricide. Hein? Le simple parricide, le fait de tuer son père ou sa mère, donne lieu donc, ce que je disais tout à l'heure, soit à la pendaison, soit à la décapitation, suivant que l'on est roturier ou noble, mais au préalable, il y a aussi cette cérémonie du poing coupé. Mmh. Et attention, cette particularité sera supprimée par la Révolution en 1791, mais rétabli dans le code de 1810.
Et donc, à nouveau...
Pour les parricides et les régicides. Bon, il y a quand même eu aussi des attentats contre, contre le roi, notamment sous Louis-Philippe.
Oui.
Et ce n'est qu'en 1832 que l'on va supprimer cette, ce supplice supplémentaire du poing coupé pour les parricides. Voilà.
Merci de tous ces détails croustillants. Continuons alors après, qu'arrive-t-il ?
Après, il est tenaillé, donc dans le gras des bras, des jambes,
et
de
toi,
la poitrine.
Bien sûr, tu le représentes toujours en vie, hein, après toutes
ah
ces
oui.
étapes.
Ah, mais il est en vie jusqu'au bout, le malheureux, jusqu'à être jusqu'à réduit être, à un tronc.
Voilà.
Donc, c'est
donc conscient de. Bien sûr.
Donc tenaillé, puis dans chaque plaie écoulé de, un mélange de plomb, de résine et de poids, enfin bon, bref, un
de
mélange
soufre.
De soufre aussi, ouais, sans doute.
C'est horrible, hein, effectivement.
Après quoi, il est changé de, d'estrade pour,
il y a
pour
les
l'écartèlement.
Aussi, hein.
Oui. Oui, c'est un vrai feu d'artifice, hein, imaginez un petit peu. On n'a pas de, d'image télévisée, évidemment, à vous présenter, mais on peut aller peut-être sur.
Mais la scène a été tellement bien décrite qu'au final, elle est très, très visuelle. On
oui.
peut se la représenter assez facilement. Et ensuite, c'est l'écartèlement proprement dit, qui apparemment était beaucoup plus difficile que celui de Ravaillac. Ça a duré une heure et demie, un cheval s'est cassé la figure, il a fallu en faire venir deux autres pour les jambes, l'horreur. Et finalement, il a fallu aller demander à la mairie l'autorisation de couper aux articulations, parce que ça ne venait pas.
Voilà. Ça ne se disloquait pas, le corps ne se disloquait pas.
Ah, ils ont même fait revenir les jambes en arrière.
C'était un mauvais spectacle.
Voilà, oui.
Voilà.
Tellement mauvais spectacle que Samson s'est pris quelques heures de cachot, parce qu'il a été très mauvais.
Et c'était son premier cachet, on peut dire.
Bah, je pense que c'était.
Ouais.
Le
c'était
premier
parmi ses
premiers.
Premiers
ouais. Hein. Enfin, de toute façon, c'est, il n'a pas toujours été très bon, hein, Samson, parce qu'il y a aussi plus tard l'exécution d'Alice Hollandale. Alice Hollandale mm-hmm. était un noble qui, on lui avait, on l'avait accusé de haute trahison pour avoir. C'est lui qui s'est trouvé après Dupleix lorsque les Indes ont été perdues par les Français au profit des Anglais. Et la Littolandale a été condamnée à mort pour ne pas avoir ainsi tenu le coup face aux Anglais. Et lui, il a été décapité. Et c'est Samson qui... Là, c'est une véritable hacherie, je crois, on a dit. Une véritable hacherie, c'est-à-dire que ça s'est très mal passé. Il n'a pas su lui trancher la tête, quoi. Il s'est repris à je ne sais combien de fois avant que la tête ne tombe. Et la Littolandale a dû souffrir vraiment de manière terrible. Et là, c'est un peu différent dans l'opinion. C'est un noble, hein, donc il a souffert encore peut-être pire que s'il avait été pendu.
C'était à l'épée en plus.
Et c'était à l'épée, oui.
Difficile
oui, c'est ça. C'est vrai que c'était à l'épée. Oui.
Approchez-vous des micros, peut-être, oui. Parce que c'est, je suis désolé, mais sinon, on ne vous entendra pas. Alors. À décrire, c'est vrai. Alors après l'écartèlement, il y a aussi, puisqu'on va allons jusqu'au
allons
bout,
jusqu'au,
hein,
bout.
Jusqu'au bout de la.
Alors donc, vous voyez le corps disloqué cette fois, enfin disloqué.
Donc en cinq morceaux. Ouais. Et ça finit sur un bûcher parce qu'il faut qu'il n'en reste rien du tout, réduit en cendres.
Ouais. Réduit en cendres, donc on va. Il faut qu'il ne reste absolument rien de ce qui s'est passé. au fond, du crime. Après, après, c'est au fond, il y a eu le spectacle, et après, il y a une sorte de destruction, parce que vous dites, c'est vrai, les, donc le corps est brûlé, on récupère les morceaux, et on va donc tous les brûler. Ensuite, sa maison est rasée, les biens sont confisqués, évidemment.
Et puis, une sorte de malédiction familiale, c'est
ça Oui, aussi. Donc, la maison est rasée, on ne peut pas reconstruire, la famille est bannie du royaume, et elle doit même changer de nom. On raconte même que la ville d'Amiens, vous voyez, la ville d'Amiens, qui n'a rien à voir, il était né à près d'Arras, ça n'a rien à voir, la ville d'Amiens a demandé à l'époque à changer de nom, pour qu'on n'ait pas dans qu'on ne puisse pas faire la similitude avec ce grand criminel, cet énorme criminel qui n'avait pas fait grand-chose, je suis bien d'accord, mais qui est donc condamné parce qu'il a donné un coup de canif au roi.
Alors, est-ce qu'il était perçu de cette façon par toute la population? Il n'y avait pas des gens qui avaient envie de régicide à l'époque?
Non, ça je crois pas. Non, je ne crois pas. Il y a eu à Paris même. D'abord, il y a eu des rumeurs. Le roi a été poignardé. Le roi, c'est le père de la nation, vous savez. Il est encore, c'est encore le cas de Louis XVI. Il a fallu que Louis XVI fuit à Varennes en 1791 pour qu'il perde la confiance des Français. Auparavant, il est le roi et un personnage, il faut bien s'en rendre compte de ça. Hein. Le roi est très populaire, la reine moins, les ministres certainement pas, mais le roi est, je vous dis, il est sacré, il est véritablement très très bien considéré, on peut dire jusqu'en 1791. Et Louis XV, malgré toutes ces phrases, alors c'est vrai qu'on a dit que Damien aurait dit que c'était pour donner un avertissement au roi, mais Louis XV, n'oubliez pas qu'il a été appelé, surnommé le bien-aimé. Et il faut dire aussi que la période, le règne de Louis XV correspond à une prospérité économique en France, dans le domaine de l'agriculture, du commerce, de l'industrie. C'est une période faste, une période aussi d'augmentation de la population, ce qui est quand même un signe. Les gens vivent mieux qu'auparavant. Il est quand même, toutes ces phrases que l'on connaît, Pompadour, du Barry, compagnie et les autres, le parc aux cerfs, etc., ce qui est vrai, hein, c'est pratiquement inconnu du grand public, sauf quelques pamphlétaires. En plus, n'oubliez pas que la plupart des gens ne savent pas lire et écrire. À Poitiers, dans la Vienne.
Pamphlétaires qui sont soumis aux mêmes, aux mêmes règles que les criminels à l'époque. Pardon, les pamphlétaires sont,
les pamphlétaires
sont des criminels, en quelque sorte.
Oui, il y a une censure, etc. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans la Vienne, par exemple, seuls 10% de la population sait lire et écrire à l'époque. C'est très peu. C'est très, très peu. Donc, pas d'accès aux livres, pas d'accès à la politique, à tout ce qui peut se savoir, etc. Donc, il y a, je reviens, il y a une fidélité loyale, complète, entière à l'égard du roi. Ça, c'est tout à fait vrai à l'époque.
D'accord. Alors, moi, je vais revenir sur, cette mise à mort. J'ajouterais, pour terminer avec, en terminer peut-être avec Damien pour l'instant, c'est qu'en plus, Samson a du mal à allumer le bûcher. Hein, il met un certain temps. En tout et pour tout, ça dure combien d'heures, Simon? Tu le sais? Est-ce qu'on peut, on l'a évalué? Est-ce qu'on peut le savoir?
Il était réduit en cendres au début de la nuit, je crois, vers 22h, quelque chose comme ça. Donc ça a duré toute la journée. Je ne sais plus très bien à quelle heure ça a commencé, mais ça a vraiment pris la journée. Enfin oui, jusqu'au bout, le bois était mouillé, ça fumait, ils avaient du mal à l'allumer. Enfin, bon.
Et puisqu'on est dans les détails un peu techniques... Détails techniques et un peu morbides, se posait la question avec Didier Bourgoin tantôt, de savoir comment étaient rémunérés, payés les Sansons. C'était du forfait, de la pièce, à la tête ou à l'écartèlement? Comment ça se...
Je crois qu'ils bénéficiaient de...
Ou c'était à l'année ou moins?
De enfin, taxes, bon. Hein, de certaines taxes qui lui étaient... D'abord, c'était des bourreaux... Il y avait des bourreaux par ville et par province. Je pense que c'était une rémunération par l'intermédiaire de la ville.
Je ne me rappelle plus exactement. Et puis ça évolue dans le temps. En
oui,
plus,
ça évolue, oui, ça évolue.
Au début, ils ont des privilèges un peu exagérés qui finissent par abandonner, je crois. Mais il me semble qu'ils sont payés régulièrement par l'État.
Enfin, oui, ils ont,
Alors c'est décrit précisément là-dedans, je ne me souviens plus exactement.
C'est finalement, je crois qu'ils sont bien payés. Hein.
Ah oui, oui.
Oui, ils sont bien payés. Bien. Ils sont méprisés.
Ah oui.
Méprisés par la population parce que là aussi, il y a un rapport. Vous voyez, les gens viennent voir les exécutions, mais l'autre personnage, et dès que, on va très bien avec Sanson, dès qu'il ne fait pas ça convenablement, suivant ce qu'il devrait faire, il y a une réprobation de la foule. Vous le dites, ça. Et c'est tout à fait vrai. Il ne participe pas, il n'est pas dans son rôle.
Hein voilà. Oui, c'est la question que j'allais poser. Comment se fait-il qu'il y ait autant de monde à ces exécutions publiques à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, à Poitiers, j'imagine que c'est le cas.
Vous savez, malheureusement, alors on pourrait faire avec un parallèle avec Sion. S'il y avait encore des exécutions publiques, il y aurait toujours autant de monde.
Oui, je pense, sincèrement, je pense qu'il y en aurait toujours autant. Si la peine de mort était rétablie, je vous rappelle qu'elle a été abolie en France en 1981, hein, c'est ça. Mais si elle voyait à nouveau le jour, je pense qu'il y aurait toujours autant de monde.
Ça, moi, je pense aussi. Je pense aussi. Et ça n'a aucune exemplarité. Il faut bien s'en rendre compte. La preuve que ce n'est pas exemplaire, contrairement à ce qu'on croyait, c'est que pendant les exécutions de voleurs, et les voleurs étaient pendus, je vous disais, les simples voleurs étaient pendus. Enfin, il fallait quand même des vols importants.
Hein. Juste pendus ou il y avait aussi des préliminaires
Il pouvait y avoir, amende honorable, etc. Les bandits de grand chemin qui étaient roués, pendant que se déroulait le supplice, bien, vous aviez des voleurs qui venaient ainsi subtiliser les bourses des badauds qui regardaient. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a aucune exemplarité, puisque même pendant que se déroule l'exécution, des vols sont commis au même moment. Donc, ça n'avait aucune influence. Et ça, on s'en rend compte quand même. Déjà, des gens s'en rendent compte. Voltaire, etc. Je crois que c'est... qui a écrit un livre il y a un livre qui a été écrit aussi sur Damien en 2010. De Marion Sigaud. C'est pour ça que j'y pense. Mourir à l'ombre des lumières, l'énigme d'Amiens.
Ah oui.
Hein, c'est à l'ombre des lumières. Je trouve que le titre est assez intéressant. À l'ombre des lumières, parce que il faut bien se replacer aussi que c'est quand même l'époque où écrivent, où paraissent les grands ouvrages des philosophes. L'Esprit des lois, 1748. Hein, c'est quelques années auparavant. Le discours sur l'inégalité, je ne sais plus, c'est de Rousseau. L'aide philosophique de Diderot, de Louis XIV de Voltaire, tout ça paraît à cette époque.
C'est un peu ce qu'on retrouve dans le travail de Simon, c'est son traitement.
Nous sommes bien d'accord.
Quelle est votre lecture de son petit traité d'humanisme à la française?
Alors,
comment vous l'avez reçu?
Moi, je vais vous dire, je considère cela comme une œuvre personnelle. On parlait tout à l'heure d'œuvres de fiction. Mais c'est vrai que c'est un livre de bande dessinée qui est bien documenté. Hein. Au fond, vous avez j'ai l'impression que vous avez mélangé trois histoires. Celle des bourreaux, celle de Damien, le régicide, et en même temps, au fond, la peine de mort qui nous conduit de cette variété des supplices à un châtiment unique qui est celui de la guillotine.
Voilà,
c'est ça, finalement.
Compris. Parce qu'on déflore un petit peu, c'est vrai que la fin de ton livre, où à la fin, on voit apparaître, on voit naître quasiment dans la foule des badauds, on voit naître pratiquement la guillotine, comme instrument de mort plus propre, entre guillemets.
C'est une liberté que j'ai prise. Hein. Je ne sais pas du tout si le docteur Louis et Guillotin étaient là à ce moment-là. Probablement pas, mais je ne sais pas. J'en avais besoin pour ma narration, pour rester dans cette idée de décalage entre la barbarie de la peine et le siècle où on, d'un certain humanisme quand même malgré tout, ce décalage entre l'humanisme d'une peine, enfin le prétendu humanisme d'une peine commune pour tous, la décollation par la guillotine, et aujourd'hui finalement où même la guillotine paraît complètement barbare et archaïque. Enfin, tout ça qui m'intéresse.
Oui, d'accord. Oui. Mais je voudrais aussi dire qu'au XVIIIe siècle, alors je sais bien qu'il y a des affaires, il y a celle de Damien, l'affaire Calas, on ne peut pas aussi ne pas oublier l'affaire Calas, ce pauvre fils de protestant qui était innocent et qui a été condamné à Toulouse par le Parlement de Toulouse. Et il y a eu d'autres affaires, l'affaire du Chevalier de la Barre. Mais à côté de ces grandes affaires criminelles qui ont défrayé la chronique, on se rend compte, les historiens ont compté, et on se rend compte qu'il y a une diminution de la répression. Il y a de moins en moins d'exécutions capitales au XVIIIe siècle.
Qu'entendez-vous par là? Enfin, je veux dire, les historiens ont compté.
Ben parce qu'on a pu se rendre... On
comptabilisait, c'est voilà, ça.
Oui, okay, oui, non, mais d'accord. Ça, c'est un travail d'historien, c'est pas difficile à faire. On est les sentences du Parlement en fonction des crimes qui ont été commis, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de condamnations à mort. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a la peine de mort est l'objet de discussions au XVIIIe siècle chez les philosophes. Ils sont presque tous d'accord pour supprimer cet éclat des supplices, ce côté spectaculaire, cette variété aussi. Mais il y en a qui vont encore plus loin et qui veulent déjà abolir la peine de mort. Je ne peux pas quand même oublier le traité des délits et des peines du marquis de Beccaria en 1762, qui déjà envisage la suppression de la peine de mort. Il y a tout un, chez les philosophes, il y en a un très grand nombre qui sont abolitionnistes. Il ne faut pas oublier non plus que deux États en Europe ont aboli la peine de mort au XVIIIe siècle. C'est le Grand-Duché de Toscane, le Grand-Duc de Toscane, qui lui-même était en quelque sorte un despote éclairé, qui est sous l'influence des idées philosophiques. Le Grand-Duc de Toscane, Léopold, va supprimer, je peux vous donner la date, je ne l'ai plus en tête, je l'ai noté.
c'est vrai que j'ai oublié de
1786, ouais. Qui supprime la peine de mort dans ses États, en Toscane, et son frère, qui est l'empereur, et dans les États d'Autriche, va aussi supprimer la peine de mort en 1787. Elle sera rétablie assez vite. Mais enfin, il y a quand même quelques années où on va, donc, dans deux États européens, supprimer la peine de mort.
Mais cette progression de la pensée, elle est quand même assez lente.
Elle est lente.
J'ai oublié de citer la date à laquelle a eu lieu quand même l'exécution de Damien, c'était en 1757. Alors, on n'a peut-être pas suffisamment dit tout à l'heure. Et donc, elle est lente dans les
mentalités. Oui, mais aux États généraux, enfin, à l'Assemblée constituante, c'est un véritable débat qui a lieu au moment où l'on veut créer le premier code pénal, qui est celui de 1791. Il y a eu tout un débat sur le maintien de la peine de mort. Et la suppression a failli l'emporter. Mais c'est toujours pareil dans ces assemblées, c'est toujours le dernier qui parle qui l'emporte. Et il y a eu un discours d'un quelqu'un qui est connu pour bien d'autres choses, c'est Brillat Savarin. Brillat Savarin, qui était un gastronome, l'inventeur du gâteau qu'on appelle le Savarin, et qui était député, c'est lui qui a parlé le dernier à l'Assemblée. Il était favorable au maintien de la peine de mort, et c'est lui qui a emporté le morceau, et la peine de mort a été maintenue. Mais avec ce que vous disiez, c'est-à-dire, c'est... un article du code pénal qui dit que tout condamné à mort aura la tête tranchée, et qui est repris ensuite par le code pénal de 1810. Donc, on envisage la décapitation. La décapitation qui était, au fond, le privilège des nobles que l'on va étendre à tout le monde au nom du principe d'égalité.
Pour vous, c'est pour cette raison essentiellement qu'on vulgarise, la, si j'ose dire, la guillotine.
Voilà,
à tous
mais
les
la guillotine,
mise à mort.
La guillotine étant filigrane, parce que déjà en 1789, Guillotin, qui était médecin, n'est pas l'inventeur de la guillotine, contrairement à ce qu'on croit, même si elle porte son nom. C'est lui qui a proposé à l'Assemblée constituante, dès 1789, que l'on utilise une machine à décapiter, dont il avait sans doute entendu parler, mais qu'il ne... Enfin, on ne sait pas comment. Hein. Je crois que on ne sait pas où il a... Il y avait eu déjà des machines en Allemagne, en Italie, etc.
Oui, parce que Simon, tu émets des hypothèses aussi à la fin de... Oui. De hautes œuvres sur la manière dont Guillotin invente.
Et puis déjà un siècle ou deux, il y a des tranches.
C'est ça. Non, il n'est pas l'inventeur.
C'est lui qui
l'a proposé à l'Assemblée constituante. Et la décision d'utiliser ce qu'on appelle donc la guillotine, la décision sera prise par l'Assemblée législative le 20 mars 1792. Et là, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites par un autre médecin qui s'appelait le docteur Louis, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, qui lui, c'est lui le véritable inventeur. Il avait pris des contacts avec Sanson quand même. Oui, il a pris des contacts avec Sanson. Mais c'est lui l'inventeur, et notamment cette invention qui n'avait jamais été auparavant. La lame était une lame courbe, et avec ce risque que ça rebondisse sur le cou au lieu de trancher. Et Louis va être l'inventeur de la lame triangulaire, c'est-à-dire cette fois là, hein, on est sûr que la tête sera séparée d'un seul coup
et que la technique est efficace.
Voilà, la technique est efficace. Et du reste, on va appeler sous la Révolution, très souvent, la machine, on va l'appeler la Louisette.
La Louisette, oui. Hein,
par référence, non pas à Louis XVI, comme on l'a dit parfois, mais par référence au docteur Louis.
Alors, j'avais une question à poser à Simon. C'est vrai que quand je vous entends aussi, Jean-Marie, Augustin, on aura envie de lire une suite de votre œuvre, justement sur l'évolution de la technique de mise à mort, parce que ça reste dans un premier temps toujours public, hein. La guillotine, les mises à mort avec la guillotine sont toujours dans un premier temps publiques. Elles s'arrêteront d'être publiques à quelle époque?
Alors, j'essayais de me remémorer, mais Michel Foucault le dit très bien. On va en quelque sorte, au fur et à mesure, on va essayer malgré tout de la cacher. Les premières exécutions capitales sous la Révolution et pendant longtemps ont lieu en public, en place publique, sur la place centrale de la ville, ou une place importante, et je dirais à une heure où tout le monde peut venir, c'est-à-dire l'après-midi ou le matin après le marché, etc. Hein.
Mais, sur un jour précis.
Et sur un jour, oui,
sur un jour.
Voilà.
Sur un jour de...
Par la suite, dès le début du 19e siècle, on exécutera non plus sur une place publique, mais on va exécuter dans un quartier de faubourg. Par exemple, à Poitiers, les exécutions ont lieu près de la place Jean de Berry, à la Porte de Paris. Hein, vous voyez, on déplace le lieu d'exécution. Et en outre, on va aussi, l'heure va changer. On ne va plus le faire, je dirais, en plein midi, mais de plus en plus tôt le matin. Donc les gens qui voudront venir assister à l'exécution devront se lever très tôt. C'est 5h, 6h, 5h du matin. Et on va aussi déplacer, voyez-vous, le lieu où on va aussi exécuter à la porte des prisons. Le dernier qui est exécuté en public à la porte de prison, c'est très tôt le matin, c'est à Versailles, c'est Weizmann, qui est exécuté en 1930, je ne sais plus si c'est 37 ou 38, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et après, c'est à partir de là qu'on va exécuter à l'intérieur, dans les cours des prisons. Et moi, je me souviens, dans mon enfance, dans le journal, à la prison de la Pierre Levée, on apprenait parfois que tel ou tel condamné avait été ainsi exécuté dans la prison de la Pierre Levée. Ça, je m'en souviens très bien. Et puis, en 1981, on va donc supprimer
la supprimer. Voilà. Oui, donc, à entendre Jean-Marie Augustin, on a envie d'avoir une suite, Simon, en quelque sorte, parce que l'histoire continue.
Oui, bah, là, en l'occurrence, je m'étais vraiment resserré sur ce fait-là, mais c'est vrai que lire cette saga là, sur quatre générations, ça m'a presque donné envie d'en faire un feuilleton. C'est vraiment très feuilletonesque, assez rocambolesque. Et c'est vraiment la petite histoire qui est à chaque fois mêlée à la grande, parce que ce sont les exécuteurs des hautes œuvres à Paris, donc tous les personnages importants de l'histoire en cours leur passent entre les mains.
Ah. Est-ce que vous avez entendu parler de Lassner, Pierre-François Lassner?
Non.
Sous le règne de... Les Enfants du Paradis, ça vous dit rien?
Ah oui.
Donc c'est Pierre... j'ai oublié... C'est Marcel Héran qui joue le rôle. Oui. On en parle dans Les Enfants du...
Pierre Brasseur, oui.
Non, il faisait Frédéric Lemaître, Brasseur. Barreau, non, c'était le mime.
On va citer tous les acteurs.
Bon, mais il me semble que non. Brasseur faisait Frédéric Lemaître, je crois. Non, c'est Marcel Héran. Si je me souviens bien, c'est Marcel Héran. Donc, Lassner, c'est quelqu'un qui a écrit... Des poèmes, qui était un voleur, qui a tué des gens dans des circonstances horribles, qui était voué en quelque sorte. Lui, il se sentait voué à la guillotine dès son enfance. Il savait qu'un jour, il serait décapité. Il le dit, il était issu d'une bonne famille lyonnaise, mais dès sa prime enfance, il se sentait voué à la guillotine. Mais il a fait les 400 coups. Et en plus, il était...
C'est ce qu'on appelle une vocation, c'est ça?
C'est presque une vocation. Il était poète, il était aussi très mondain. Ici, il y a eu un film aussi avec Daniel Auteuil sur le sujet, qui était pas mal du tout. Et je ne sais plus qui est l'auteur. Et je crois que l'histoire de Lassner, c'est une histoire formidable.
À quelle époque?
C'est sous Louis-Philippe.
Ouais. D'accord.
Louis-Philippe. Il a même fait une complainte au roi. Roi mon cousin, qui était chanté par, je me souviens, moi j'avais entendu par Catherine Sauvage autrefois, qui était mise en musique, qui est superbe. Voilà.
Alors, j'ai envie de céder des questions à l'Assemblée ici présente. C'est vrai qu'on a voulu rester un peu, enfin moi je voulais rester un peu froid, pas faire de parallèle avec d'autres époques, sinon suivre l'évolution de l'exécution publique et la mise à mort publique peut-être en France, comme vous l'avez fait. Et surtout pas faire de parallèle avec aussi d'autres pays, parce que ce sont d'autres contextes. C'est peut-être des choses assez difficiles à comparer. Et donc, je vous cède tout simplement Didier.
Oui. Tu te situes dans la tradition de la bande dessinée historique ou pas, et en quel sens tu te différencierais de cette bande dessinée historique?
En même temps, il y a une sorte d'oncle Paul qui présente l'histoire. C'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est vrai qu'il y a un oncle Paul là, oui. C'est vrai. Est-ce que ça vous a...
On prend la vie d'un auteur et puis on la refonte en bande dessinée pour le grand public, quoi. Mettons un auteur d'un personnage historique, voilà, quoi. Un roman historique à tout le monde dessiné.
Ouais. Je ne connais pas bien le courant de la bande dessinée historique, j'en ai pas lu beaucoup. À mon avis, c'est peut-être un peu en marge quand même, parce que c'est pas extrêmement documenté, j'ai pas repris le langage de l'époque, enfin, je suis pas un fondu d'histoire. Je pense que j'ai mis quand même des choses personnelles dedans. Et
c'était un petit reproche que je vous ferais, ça, de ne pas avoir repris le langage de l'époque. Bah, ça fait un peu anachronique. Est-ce que c'est parce que vous... Enfin,
c'était volontaire aussi.
J'ai compris.
Tout à l'heure, vous me disiez qu'il n'y avait pas d'étudiants en droit. Oui. J'en ai mis un.
Oui.
Mais en même temps, ça m'amusait beaucoup. Parce
si, il y avait peut-être des étudiants en droit, mais ils venaient pas, pour autant, pratiquer en pratique le droit pénal. Le droit pénal ne s'enseignait pas à l'époque à l'université.
D'accord. Non, mais c'est juste le parallèle avec... Enfin, l'hypothétique parallèle avec l'époque d'aujourd'hui qui m'amusait, dans le sens c'est où ça. Un étudiant de fac de droit aujourd'hui pourrait, aurait pu se trouver là pour... En application des cours, voire une séance de...
Vous voyez, là,
il y a 250 ans de différence.
Mais là, je vous dis, il y a quand même un anachronisme, puisque, je vous répète, les étudiants, à l'époque, à l'université, on n'enseignait pas le droit pénal. On enseignait le droit romain, le droit canon, et ça commençait tout juste depuis 1679. On commençait à étudier un peu le droit français, mais vraiment très... Enfin, le droit civil, seulement. Le droit civil français... les coutumes et les lois du roi. Mais tout juste, ça a commencé tout juste. Le droit pénal commence à être enseigné dans la deuxième moitié du 19e siècle, second empire.
Quand...
Haute-Œuvre, c'est une très bonne historien de formation, est une bonne entrée en matière.
Oui, ça, je suis d'accord.
Dans un sujet qu'on connaît très, très peu, tout le monde connaît les institutions, plus ou moins les exécutions. Une date, on connaît 1789, on connaît 1787, j'en sais rien. Une bonne entrée en matière historique, d'une part, donc si pour moi, ma question de tout à l'heure, ça voulait dire que dans la bande dessinée historique, au contraire, on n'est pas historique, en fait. Alors que là, on l'est, vachement. Et puis, en plus, pour moi, tu as tout un travail graphique, de cadre, non cadre, qui est vachement intéressant.
Des choix de cadrage, tu veux dire, entre autres, oui.
Ah oui, non,
mais c'est voilà, sûr.
Et qui amène vachement, justement, à l'histoire.
Quand tu as son choix, ton choix, je vais te défendre, hein, Simon, de ne pas apprendre, par exemple, le langage de l'époque, je le comprends aussi parce que je pense que c'est toujours assez difficile d'aller vers une langue parlée ancienne, par exemple, quand il s'agit de faire parler des gens du peuple, parce qu'il faudrait mettre des astérisques partout pour essayer de traduire.
Non, pas forcément. Pas forcément. Regardez Ridicule, le film.
Oui, mais je pense qu'au cinéma, c'est pas pareil.
Et le film Ridicule est une œuvre de fiction aussi. C'est une œuvre de fiction.
Oui.
Mais on a exagéré le langage. Là, on l'a exagéré dans Ridicule. Et je trouve que ça passe mieux, si vous voulez, que... mais la bande dessinée, c'est un art tout à fait différent. Ça, je conçois tout à fait que... que vous ayez fait le choix d'utiliser donc un langage d'aujourd'hui pour parce que vous adressez aussi à des lecteurs qui sont jeunes, etc. C'est leur langage, je comprends tout à fait.
Oui, je suis pas du tout dans la démarche d'un bourgeon, par exemple.
Non, je comprends très bien.
Quelqu'un de très scrupuleux. Enfin, j'ai des anachronismes et des personnages que je fais intervenir comme ça. C'est assumé malgré tout.
Oui,
hein. Du coup, c'est pas à lire au premier degré comme un ouvrage historique. Votre crainte tout à l'heure, justement.
Oui, moi je suis assez pour rejoindre. Moi, je crois qu'on est d'accord. La BD, franchement, historique. Bon, je pense à Fred Funken, finalement, c'était l'oncle Paul. Ou Alix, oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est pas finalement très intéressant. Je suis assez d'accord.
Là, on met le point, à mon sens, sur un détail historique très peu connu, en fait.
Qui fait mal, oui.
Mais les lumières, on voit bien que les lumières ne sont pas encore arrivées, hein, elles ne sont pas encore dans le peuple, hein, et après on en a encore loin, même après le 1789. Moi j'ai vu ça dans un contexte aussi, et je me suis dit, c'est bien plus intéressant que, oui, par exemple, de voir Alix, il y a une constitution, c'est au sens de la romantique ou des
l'architecture, du bâti, etc.
Oui, je trouvais que c'était vraiment justement un lien entre les grandes personnes de l'histoire et le petit peuple. Il y a vraiment juste ce personnage central là, au milieu de Bourreau, et par le biais de toutes ces exécutions, il fait vraiment la transition. Et enfin, moi, j'ai fait aussi le bouquin pour essayer d'y mettre mes questions personnelles. Et ouais, je pense que c'est quand même quelque chose de personnel.
Il y a un travail critique aussi.
Ouais. Oui, comme tu disais, l'ironie.
Bah, l'ironie, c'est souvent le meilleur vecteur pour faire comprendre. Hein. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'effectivement, à vous lire, on réfléchit. Quoi. On a, j'aime pas utiliser ce terme, ça interpelle, j'aime pas du tout ça, mais on a quand même, par la suite, on a une réflexion. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une suite. Ça repose des questions. Mm-hmm. Voilà.
Mais il faudrait que Simon H. revienne à la charge. Voilà.
Je veux bien.
Bon. Alors, oui, je me souviens, moi, je laisse la parole après. Je me souviens d'un catalogue d'Amnesty International sur les objets de torture qui avait été édité il y a une vingtaine d'années, qui était assez époustouflant aussi, où on voyait depuis. C'était à travers les âges, c'était pas uniquement centré sur une période limitée. Et on voit bien, en effet, que l'homme a l'esprit tordu, enfin, un peu. L'idée de base de cette...
Encore que, faut bien vous rendre compte, et c'est pour ça aussi que ça part toujours bien, tout ça est codifié à l'époque. La torture, par exemple, les brodequins, la question, c'est horrible. Hein. On attache les jambes dans entre des attelles qui sont liées par des cordes, des attelles en bois qui sont liées par des cordes, et on met des coins, comme pour fendre le bois, hein, entre l'attelle et la jambe, et on tape à coups de marteau. Donc ça déchire les chairs. Mais tout cela est mesuré, c'est-à-dire que le bourreau, car c'est aussi le bourreau qui fait ça, il doit donner tant de coups de maillet, c'est plutôt des maillets du reste, hein, tant de coups de maillet, pas plus. Hein. Tout cela est mesuré. Quand c'est la question par l'eau, on ne parle pas de litres, on parle à l'époque de pintes, mais c'est tant de pintes d'eau, pas plus. De même, le supplice qu'on a décrit, tout cela est prévu. Je dirais que c'est une torture, mais c'est une torture qui est codifiée, qui est judiciaire. Elle n'est pas laissée à l'imagination de celui qui l'inflige. C'est ça qu'il faut bien... Elle est horrible, tout ça est horrible. Mais ce n'est pas laissé à l'imagination de celui qui l'inflige. Le pire, je crois, et c'est la vraie torture... Au fond, c'est la torture policière. C'est une autre torture qui a été infligée pendant les guerres, par exemple, par les SS ou par les miliciens aussi. Il ne faut pas les oublier non plus en France. Et là, qui est laissée à l'imagination de celui qui l'inflige. Baignoire, utilisation d'électricité, etc. Coups, etc. Il y a des détails, vous regarderez dans les grandes affaires criminelles si vous voulez... pour les bourreaux de la pierre levée, qui étaient des bons Français, de bons policiers français, et qui ont infligé des tortures affreuses aux résistants à la pierre levée pendant les guerres. Mais tout ça parce qu'ils voulaient en quelque sorte faire... On a l'impression qu'ils veulent faire une surenchère par rapport à la Gestapo. Des policiers français qui infligent la torture, presque dans une surenchère. Bon, fallait le faire quand même par rapport à la Gestapo, qui s'y connaissait quand même dans ce domaine. Eh bien... parce que je crois que là, malheureusement, comme vous disiez, l'imagination, eh bien, elle est complètement sans borne. Tout est possible.
Oui, c'est ça. Tout est possible.
Tout est possible.
Alors, tu avais une...
Oui, donc c'est on avait parlé de ça avec un collègue dessinateur qui lui avait lu un livre sur les amateurs de souffrance anglais. Apparemment, il y avait beaucoup d'amateurs qui n'hésitaient pas à faire des kilomètres pour assister à une exécution. Et bon, bah, probablement en France, en l'occurrence, avec tous ces gens riches qui n'hésitent pas à payer à prix d'or.
Ça oui, vous le montrez bien. On loue les balcons. Hein. Mm-hmm. Oui.
Et donc, on est au courant, par exemple, de l'exécution de Damien. On était au courant un mois avant, par voie d'affichage, par colportage ou par le bouche-à-oreille.
Bouche-à-oreille,
essentiellement.
C'est le bouche-à-oreille.
Mais on peut imaginer une affiche, par exemple, représentant...
Je ne sais pas.
Non,
je ne crois pas.
D'accord.
Je ne crois pas qu'on en a jusque-là. Mais effectivement, il y a énormément de monde. Hein. Énormément de monde pour assister aux exécutions capitales. Celle de Damien, que voulez-vous, elle marque le siècle.
Hein. Le siècle, carrément, vous dites.
Oui, je crois qu'elle marque le siècle.
À cause du roi, oui, bien sûr.
Elle marque, tout à fait.
D'ailleurs, moi, j'avais une question. Est-ce qu'il n'y a pas un peu dans cette exécution les germes de la Révolution qui va arriver 30 ans plus tard?
On l'a dit. Il est certain aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'il faut quand même le souligner, que... De telles exécutions à grand spectacle, c'est aussi malgré tout la marque du pouvoir royal. Mmh. C'est aussi le pouvoir royal.
De l'autorité.
C'est l'autorité qui se manifeste aussi par l'intermédiaire justement du bourreau, qui est l'instrument de ce pouvoir. Ça, il faut quand même le reconnaître. Alors, je suis bien d'accord qu'il y a peut-être là, on pourrait dire qu'il y a une sorte de germe de la Révolution, puisque, au fond, c'est l'arbitraire royal qui se matérialise dans ces exécutions capitales. Ça, peut-être. Mais pas tellement, puisque je vous disais quand même qu'il y a de moins en moins de condamnations à mort, enfin d'exécutions.
Par rapport à toi, Simon, j'ajouterais qu'on a peu abordé aussi la personnalité de Damien. Mmh. Toi, tu lui confies une certaine aura, comme s'il incarnait justement quelque chose de révolutionnaire.
Finalement, il apparaît presque sympathique.
Dans son acte, je veux dire, il est symbolique.
Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai lu. Après, je l'interprète forcément, mais... quelqu'un d'un peu illuminé, mais en même temps de... qui se sent le besoin héroïque d'aller dire au roi que ça va mal en France et qu'il faut qu'il fasse quelque chose.
Mais c'est un acte isolé quand même, parce que il faut bien reconnaître aussi, il a été domestique, laquais, il n'a pas vendu, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il ait vendu des colis fichés.
J'ai lu ça.
Vous l'avez lu?
Non,
c'est rien. Bref.
Mais il a été laquais. Apparemment, je l'ai aussi.
Non, non. Ouais. Ça, oui, il a été laquais. Ouais. Il a été laquais. C'est intéressant. Au collège à Louis le Grand, donc chez les Jésuites. Oui. Et ensuite, il a été le domestique d'un certain nombre de conseillers au Parlement. Or, il faut savoir que Louis XV, c'est un personnage un peu ambigu, Louis XV. Louis XV veut faire des réformes en France, notamment dans le domaine des finances, parce que il y a une dette publique, là presque, pour trouver l'actualité, mais une dette publique qui augmente de façon exponentielle à la suite de notamment des guerres continuelles et la guerre de 7 ans. Et puis il veut aussi réformer la justice, la justice, parce que il y a effectivement à faire dans ce domaine. Or, il se trouve face à deux oppositions sous son règne, le parti dévot, qui lui reproche ses phrases, qui lui reproche ses maîtresses, le parti dévot qui est largement animé par les jésuites. Il faut savoir que Louis XV va condamner la compagnie de Jésus et va obliger les jésuites à quitter le royaume. Bon, donc il y a le parti dévot. Et il y a aussi une forte opposition parlementaire, et notamment du Parlement de Paris, qui même arrive parfois à se mettre en grève contre le roi. Donc, et Damien, il est le domestique. Il a d'abord été chez les jésuites, et ensuite il a été chez les conseillers au Parlement. Donc on s'est demandé, au fond, si derrière, il n'aurait pas été l'instrument de cette opposition, c'est-à-dire qu'il aurait été guidé soit par le Parti des Vaux, soit par les parlementaires. Il semble que ce ne soit pas le cas.
C'est un peu le cas pour tous les régicides, pour Ravaillac, etc.
C'est le cas de Ravaillac. C'est le cas. Alors, on s'est plein d'hypothèses, posé la question, mais je crois que ce sont des illuminés. C'est le cas aussi plus récemment de l'assassin du Paul Doumer, de Paul Doumer, du président de la République, en 1932, qui était un fou, tout simplement. C'est le cas de Damien, je crois, en partie. Vous le dites d'ailleurs dedans. Il y a quelqu'un. Je crois que, non, c'est pas là. Vous dites, j'en veux pas une fille qui n'a pas voulu de lui parce qu'elle le trouve illuminé et un personnage un peu difficile, quoi. Donc, je crois qu'il n'y avait personne derrière. Bon, c'est un pauvre type, quoi, Damien.
Bah oui, malheureusement. Ah, oui.
C'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Et je crois que Louis XV l'a perçu.
Mais il ne l'a pas gracié pour autant.
Non, il ne l'a pas gracié, mais...
C'était difficile pour lui de ne pas donner le spectacle, c'est ça.
D'une part, il fallait donner le spectacle, et puis c'était un peu le tout ou rien. Mm-hmm. S'il le graciait, il n'y avait pas de châtiment. Or, après, la machine se met en marche. Il peut pas y avoir. Il y a pas, à l'époque, dans ce domaine, on n'applique pas des circonstances atténuantes. Mm-hmm. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. C'est le tout ou rien. Et ça a été le tout. C'est-à-dire, à partir du moment où ça commence, on sait très bien que ça terminera par l'écartèlement. Voilà.
D'autres questions ? Sur les instruments de torture, sur la manière dont, je sais pas, est-ce que Samson a été payé un peu plus, par exemple, quand il pratiquait Non.
Je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Mais les instruments, effectivement, sont... Ça commence...
D'ailleurs, ta documentation
dès la première page, on a tous les instruments de torture là.
À partir de quoi tu t'es basé pour décrire ces objets, les outils?
Pas grand chose, j'ai pas trouvé beaucoup d'images.
Il y a très peu, il y en a quelques-unes, mais il y en a
pas. Oui, c'est pas facile à trouver.
Ouais, c'est plus, vous avez raison, c'est plus parce que on en a quand même beaucoup parlé. On peut plus imaginer à partir de ce qu'on lit.
Oui, voilà. Une tenaille, bon, on peut se la représenter très facilement, une hache, une corde, etc. Mais après, très peu d'images.
Donc vous l'aurez compris, à travers ce livre, nous regrettons tous l'abolition de la peine de mort, évidemment.
Bien entendu.
Enfin, il y en a malheureusement qui le regrettent. Hein.
Oui, je sais bien, oui. Évidemment. Pas de réaction de votre part ? Vous n'êtes pas mort ? Bon. Ben, vos mots de conclusion, messieurs.
Moi, je vais vous dire tout simplement, j'ai eu du plaisir à lire cette bande dessinée. Et, j'ai eu aussi, je suis un peu bavard, excusez-moi, j'ai eu du plaisir également aussi à donner mon opinion, qui est celle disais tout à l'heure au début, de quelqu'un qui s'est un petit peu intéressé à l'histoire du droit pénal. Voilà, tout simplement.
Et j'aimerais bien, toi, Simon, en guise de conclusion, que tu puisses parler du... Parce que je sais que tu l'as lu, alors partiellement, entièrement, je ne sais pas, depuis avant-hier, mais du livre des Videntelles me collaient, de Jean-Marie Augustin.
C'est un parcours passionnant, détestable, franchement, le personnage n'est pas du tout sympathique. Et il passe son temps à gruger tout le monde, mais c'est
un personnage de fiction.
Ah, totalement, oui, il est fascinant.
Être un personnage de fiction.
D'ailleurs, je crois que c'est Balzac qui s'est.
Oui, Balzac, ça serait inspiré pour le personnage de Vautrin.
De Vautrin, oui.
C'est pas un hasard, ça veut dire que vraiment.
Oui. Vautrin, d'après Balzac, d'après ce qu'on sait, aurait été inspiré par, en gros, deux personnages, Vidocq, hein, que vous connaissez. Et Anthelme Collet également. Du reste, quand on lit bien dans les romans de Balzac, le personnage de Vautrin, c'est un personnage aussi très très ambigu. Hein. Mm-hmm. Je parlais de pédophilie. les rapports entre Vautrin et Rastignac, hein, sont des rapports un peu pervers. Hein. On sent que Rastignac est tout à fait sous la coupe de Vautrin. Hein. Donc jusque dans cet aspect du personnage, Balzac s'en est inspiré.
Et Colloy aurait pu être aussi lui-même un bon auteur de fiction.
Oui, enfin, mais il était tellement limité au point
fantasque aussi.
Écriture. Moi, je vous dis que les mémoires, c'est pas lui qui.
Oui,
les mémoires, c'est pas lui. Il y avait déjà à l'époque, comme ça se fait aujourd'hui pour les célébrités, hein, toutes les biographies, toutes les mémoires d'un certain nombre de célébrités de nos jours.
Sinon toutes, hein, mais bon.
Sinon toutes sont écrites par des gens qui sont des spécialistes dans ce domaine. Hein.
Qu'on appelle des nègres.
Qu'on appelle des nègres, effectivement. Voilà.
Merci Jean-Marie Augustin et merci Simon Hérault.
Merci.
Voilà. Merci à vous d'avoir été présent.
Merci.